nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
C'est le propre de l'hérésie de ne retenir qu'une vérité révélée et de la grossir inconsidérément au détriment des autres. Vous savez que hérésie vient du grec hérésis, qui signifie le tri, justement. Et on a cet exemple dans la doctrine de Luther, par exemple, qui retient le sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule, au détriment de la tradition, un élément sur les deux, on en grossit qu'un, on élimine l'autre, ou encore sola fides, qui ne tient que la foi comme condition de notre salut, pour écarter les œuvres et la nécessité de la coopération humaine. Vous voyez donc un peu cette logique qui prévaut dans l'hérésie. Mais dans l'orthodoxie, c'est-à-dire la saine doctrine promue par l'Église catholique, à l'inverse, on unit des vérités qui sont distinctes entre elles. On unit l'écriture et la tradition, on unit la foi et les œuvres, on ne divise pas, on unit. Ainsi, lorsque nous abordons l'écriture sainte, il ne saurait être question de se focaliser sur un seul de ces livres sans tenir compte du reste des autres. En effet, il existe un nécessaire éclairage mutuel des écrits bibliques et qui, si on en fait abstraction, ne saurait nous livrer la vérité de ces livres. Tel est le cas des évangiles et des épîtres de saint Paul, par exemple, qu'on ne doit en aucun cas opposer. Vous savez peut-être que depuis plusieurs siècles, on oppose sans cesse saint Paul à Jésus. Jésus, c'est par exemple ce gentil révolutionnaire, révolution de la douceur, qui jamais ne s'est prononcé en matière de morale, et singulièrement de morale sexuelle, tandis que saint Paul, évidemment, est focalisé par la morale sexuelle, comme chacun sait. Et voilà, là où Jésus n'a donné aucune règle, saint Paul, qui sans aucun doute était un malade, a essayé d'imposer à toute la chrétienté sa propre lutte contre ses propres turpitudes. Bon, un exemple parmi d'autres. Toujours est-il que donc, à opposer saint Paul et Jésus dans les évangiles, on tombe dans toutes sortes de contresens et dans une connaissance superficielle seulement des vérités qui sont révélées par le Seigneur Jésus. J'ai essayé de vous montrer il y a deux semaines, peut-être vous en souvient-il, combien les paroles et les actions du Christ contenues dans l'Évangile permettaient par exemple de vérifier que les intuitions de saint Paul n'étaient pas le fruit de sa féconde imagination, mais qu'elles étaient, ces vérités défendues par Paul, une doctrine en phase avec l'enseignement du Maître. Je ne sais pas si vous souvenez de ça, et c'était à propos de l'évangile de la guérison du lépreux et de la guérison du fils du centurion, du serviteur du centurion. On apprenait dans cet évangile-là que Jésus outrepassait délibérément les préceptes d'interdiction juridique en allant toucher le lépreux. Ce qui rejoint, ce qui valide la doctrine de saint Paul, la loi tue et l'esprit vivifie. Ou encore, lorsqu'on voit Jésus à l'égard du centurion être prêt à entrer chez lui qui n'est qu'un païen, et ensuite s'extasier devant la foi de cet homme dont il dit que jamais en Israël il n'a vu la même foi, Jésus donne raison à saint Paul qui ouvre largement les portes du salut bien au-delà du peuple juif, même jusqu'aux gentils. Bref, aujourd'hui, je voudrais envisager encore autre chose, vous montrer en quoi le passage de l'évangile que nous venons de lire, la parabole du bon grain et de l'ivraie connue entre toutes, gagne à être mise en parallèle avec la doctrine paulinienne sur la chair et sur l'esprit. Et comment réciproquement, il n'y a pas seulement un enrichissement de l'évangile par saint Paul, mais un éclairage de saint Paul par l'évangile, tout de même. Saint Paul d'abord donc offre une grille de lecture de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Je vais aller partir d'assez loin. Vous savez peut-être que Platon, philosophe génial par ailleurs, s'est fourvoyé au sujet du corps. Bon. Sans doute qu'il était marqué par la pesanteur de son propre corps, par sa relative fragilité, par le fait qu'il était exposé à la souffrance et à la mort, comme chacun en fait l'expérience, mais aussi au mouvement des passions, mouvement qui est très véhément et parfois très cuisant. Alors il portait un jugement très noir, très pessimiste sur le corps, n'y discernant qu'une prison dont l'âme devait un jour s'évader. Vous connaissez le jeu de mots, le corps en grec c'est « soma » sous la plume de Platon, et la prison c'est « sema », « soma »,« sema », le corps est une prison. Et Platon, de jouer à l'envi sur ce jeu de mots, au fond, à ses yeux, l'être humain ne parvenait à sa pleine réalisation que par son âme, et qu'une fois que son âme était extraite du corps. Eh bien, figurez-vous que dans les tout premiers temps de l'Église, des penseurs judéo-chrétiens se sont appuyés sur cette thèse de Platon pour dire que Dieu, qui est pur esprit, et qui est parfaitement bon, ne pouvait être l'auteur que des réalités spirituelles, c'est-à-dire les anges et l'âme humaine, qui était bonne, et en revanche, ne pouvait lui attribuer la création de la matière, et la création spécifiquement du corps humain. Ça, c'était l'œuvre d'un démiurge qui était un démiurge mauvais. Ainsi avait-on deux principes à la tête de la création, si j'ose dire, un principe bon, Dieu Tout-Puissant, qui crée l'esprit, et un principe mauvais, dont on ne sait pas trop dans cette théorie si elle est subordonnée à Dieu Tout-Puissant ou pas, qui est créateur de la matière et du corps. Et du coup, par une ascèse effrayante, ces premiers chrétiens essayaient de réduire le corps, non pas à néant, mais au moins dans une servitude à règne très courte, ou encore ils refusaient par principe l'usage de la sexualité qui, comme chacun sait, selon cette thèse en tout cas, qui est récurrente dans l'histoire de l'Église, est le principe de tous les maux. Voilà. Ils croyaient trouver, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie d'aujourd'hui, une confirmation très nette de la part du Seigneur Jésus de leurs propos. Le bon grain, qui ne pouvait être autre chose que la partie spirituelle de l'être humain, son âme, était semée par le bon père de famille, c'est-à-dire par Dieu lui-même, comme on le voit dans la parabole, tandis que l'ivraie, semée par l'ennemi, c'est-à-dire le diable, représentait à leurs yeux, c'était sûr, le corps. Voyez, et au conseil du bon père de famille de la parabole, qui recommandait de ne pas arracher immédiatement l'ivraie par rapport au bon grain, ils acquiesçaient par un certain côté, c'est gnostique, puisque c'est ainsi qu'on appelle cette hérésie. Ils acquiesçaient en disant que tant que l'être humain était encore en vie, il ne pouvait pas se départir totalement de son corps, sauf à mourir, il ne pouvait pas mettre fin à sa vie corporelle. Vous voyez que c'est une lecture un peu orientée, très subjective de la parabole. Et je ne pense pas que, de prime abord, vous ayez eu ce réflexe d'interpréter comme ça les paroles du maître. Vous voyez comment donc on peut aboutir, lorsqu'on est seulement devant un passage de l'Évangile, à une lecture totalement exclusive, totalement erronée. Et d'ailleurs, la thèse que je viens de décrire et l'interprétation qu'ils ont donnée de cette parabole a évidemment été rejetée par l'Église. Cette dernière ne pouvait pas accepter un regard si dépréciatif sur le corps humain et les réalités matérielles qui devaient être créées par Dieu. Dans les toutes premières déclarations du magistère, c'est-à-dire dans les symboles, dans les credos des tout premiers siècles, que lit-on, et délibérément contre ces hérésies gnostiques, notamment ce dualisme de chrétiens qui erraient, on lit que Dieu est créateur du ciel et de la terre, des réalités invisibles et des réalités visibles, pour que les choses soient claires. Et je crois que si les dualistes avaient pris soin de lire les paroles de Jésus à la lumière des épîtres de saint Paul, sans doute ne serait-il pas tombé dans ce travers. Chez l'apôtre, en effet, on trouve une autre opposition que celle du bon grain et de l'ivraie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'opposition entre la chair et l'esprit. Et cette opposition détaille, éclaire, approfondit l'opposition que Jésus fait dans sa parabole entre le bon grain et l'ivraie. Alors vous me direz, au premier abord, on pourrait penser que saint Paul donne raison au dualisme, puisqu'il oppose la chair qui est mauvaise et l'esprit qui est bon. On a l'impression que lui aussi est dualiste. Mais c'est ne pas comprendre la manière dont s'exprime l'apôtre et l'arrière-fond de sa pensée. Saint Paul est un sémite. Saint Paul n'est pas un grec qui a une conception dualiste de l'être humain, avec son corps d'un côté et son âme de l'autre. Saint Paul a une vision de l'homme qui est unitive. Une vision de l'homme qu'on appelle moniste, parce qu'il est juif. L'être humain est tout un. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il échappe à ce piège d'aligner la chair sur le corps et l'esprit sur l'âme. C'est pas du tout ça qu'il faut entendre sous les mots de chair et d'esprit. Ce n'est pas le corps et l'âme. J'en veux pour preuve le fait que saint Paul, la plupart du temps, quand il emploie le mot corps, il l'emploie dans un sens positif. Vous voyez, non pas quand il parle de chair, mais vraiment quand il parle de corps. Il l'emploie dans un sens très positif. Ne savez-vous pas, dit-il par exemple, que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Croyez-vous que si saint Paul était dualiste, il dirait que le corps est le réceptacle du Saint-Esprit? Ou encore il parle de ce qui va advenir de notre corps, qui deviendra un corps de gloire. Croyez-vous là encore que s'il était dualiste et s'il avait un pessimisme à l'égard du corps humain, il parlerait des corps transfigurés? Ou encore il ose comparer l'Église à un corps le corps mystique de Jésus-Christ. Là encore, il ne l'aurait certainement pas fait s'il avait déprécié le corps humain. Voyez donc que saint Paul, lorsqu'il parle de chair, ne parle pas de corps, il n'équipare pas les deux. Pas plus qu'il n'équipare l'âme humaine à l'esprit. Il ne fait pas de l'âme une espèce de réalité immaculée comme il le fait de l'esprit. Il y a une tripartition dans ce qu'on appelle l'anthropologie de saint Paul, c'est-à-dire sa manière de concevoir l'être humain, corps, âme, esprit. On voit bien que l'esprit n'est pas l'âme. Je m'explique. En réalité, pour saint Paul, la chair, c'est tout l'être humain. Corps et âme, dirions-nous avec la terminologie grecque. Corps et âme. Et ça, ça a été créé, bon, cet ensemble corps et âme, la personne humaine, a été créée par Dieu bonne. Malheureusement, depuis que nos premiers parents l'ont estimé bon, nous sommes marqués, notre nature humaine est frappée par le péché originel, auquel, évidemment, s'adjoignent tous nos péchés personnels, et qui tend donc à incliner notre être vers la mort. Ce qu'est la chair, donc, c'est la personne humaine, corps et âme, en tant qu'elle est infestée du péché originel, péché qui l'oriente vers le mal et ultimement vers la mort. Pourquoi ? Parce qu'il refuse, cet être humain, il refuse de dépendre de Dieu qui est la vie. Dans la culture sémitique, seul Dieu est la vie, je suis celui qui est, ou je suis celui qui suis. Et dès lors que la créature se détourne de son Dieu, elle meurt. A l'inverse, l'esprit est une réalité qui n'a rien à voir avec l'âme humaine. C'est une réalité incréée. L'esprit, c'est quelque chose dans sa racine. C'est-à-dire que l'homme ne possède pas par nature cet esprit dont parle saint Paul. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit, mais bien de l'esprit avec un petit E. Eh bien, c'est un don que Dieu lui accorde par surcroît. Ce don-là vient dans son être, vient dans la chair mauvaise et est un principe de réconciliation avec Dieu. Par purification de la chair, par spiritualisation progressive de ce qui n'est que charnel, encore une fois, il ne s'agit pas de corporel, mais de charnel, c'est-à-dire de ce qui en nous est le vieil homme, si vous voulez, voilà que nous acquérons une vie nouvelle et que nous sommes unis à Dieu. Et aux Romains, saint Paul pose le constat dramatique qu'il existe en lui une dualité, non pas encore une fois la dualité entre le corps et l'âme, mais la dualité entre la loi de la chair, qui le pousse au mal, chair, c'est-à-dire corps et âme qui sont infestés du péché, qui me poussent au mal et à la mort, et cette autre loi contradictoire, qui est également en moi, de l'esprit qui me pousse au bien. Et ces deux lois, Saint Paul en est mari évidemment, mais ces deux lois, il constate qu'elles sont étroitement unies dans un combat sans merci. On retrouve ici l'idée de la parabole qu'au bon grain est mêlé l'ivraie, que n'apparaît pas tout de suite cette distinction entre le bon grain et l'ivraie. Les choses sont en clair-obscur. Tout ce qui est humain n'est pas d'un bloc, n'est pas très clair, et tout est intriqué dans l'être humain, le bien et le mal, les bonnes intentions, les mauvaises intentions qui parfois se déguisent en bonnes, et vice-versa. Voyez, on voit combien la lecture de saint Paul nous évite de mal interpréter les paroles de Jésus-Christ dans sa parabole du bon grain et de l'ivraie. Encore une fois, ce n'est pas notre corps qui est le principe du mal, comme on le croit trop souvent, mais c'est notre être entier qui est frappé, j'allais dire, de la tête aux pieds, par la tâche du péché originel, qui nous incline au mal, qui nous rend plus facile, plus accessible de commettre le mal que de faire le bien. Et en même temps, on constate, à lire l'apôtre, que Dieu nous a concédé une force, l'esprit, non pas le Saint-Esprit, bien que cet esprit qui est en nous procède du Saint-Esprit, bien sûr, est le fruit du Saint-Esprit, c'est une grâce, c'est une semence puissante qui ne demande qu'à croître. Voyez, nous ne sommes pas, à lire l'apôtre qui nous parle d'esprit, nous voyons bien que nous ne sommes pas livrés à nos propres forces. Nous avons ce principe qui nous est d'abord extrinsèque et qui vient en nous, qui est un don de Dieu, qui est une puissance incroyable, qui ne demande encore une fois qu'à s'épanouir et qui vient nous aider à lutter contre l'ivraie qui tente à nous étouffer. Alors qu'à ne lire que la parabole du bon grain et l'ivraie, on a l'impression qu'il y a une égalité entre le bon grain et l'ivraie, que le bon grain naturel a à lutter contre l'ivraie naturelle, autrement dit que l'être humain est livré à ses propres forces naturelles. Ce n'est pas le cas. Saint Paul est beaucoup plus optimiste qu'une lecture terre à terre de cette parabole. Il nous montre que nous disposons d'une arme, de ce principe qu'est la vie surnaturelle en nous, qui, si nous voulons bien, nous permet de triompher de cette chair qui nous enlace, corps et âme. Alors, il y a également, je serai plus bref pour la réciproque, c'est-à-dire je vous montre là que saint Paul éclaire l'évangile, la parabole du Seigneur Jésus, nous permet d'en faire une bonne interprétation, mais il y a la réciproque. L'évangile éclaire saint Paul et nous permet, donne une issue à ce que saint Paul pourrait avoir de trop torturé. Vous savez que saint Paul, après sa conversion au Christ, avec le tempérament de feu qu'on lui connaît, tout persécuteur de chrétiens qu'il avait été auparavant, tout jusqu'au boutiste, tout intégriste, aime à dire la bête noire, que saint Paul était auparavant, lorsqu'il n'était que Saul de Tarse, le pharisien d'entre les pharisiens, de la tribu de Benjamin, et lorsqu'il vire au christianisme, si j'ose dire, lorsqu'il se convertit, retourné sur le chemin de Damas, et tout aussi jusqu'au boutiste. Et dans son propos, on voit affleurer partout, et plus qu'affleurer, éclater parfois, une violence, une volonté d'en finir avec la chair. Saint Paul s'est converti tout au Christ, il comprend que la loi est mortifère, il comprend que les œuvres humaines ne suffisent pas, il comprend qu'il faut se fier entièrement dans cette graine conférée par le baptême qu'est l'Esprit en nous, et on a l'impression qu'il veut en finir au plus vite. À lire les Romains, à lire ce que je vous disais tout à l'heure, ses propos sur la contradiction entre les deux lois en lui, la loi de la chair et la loi de l'esprit, à lire également ce qu'il dit sur l'aiguillon de la chair, on a l'impression que saint Paul veut en finir et tout de suite, qu'il veut être un saint et qu'il est sur le point de retomber dans les erreurs gnostiques. Vous voyez, d'une ascèse déréglée, d'une ascèse excessive parce qu'impatiente, qui veut tout de suite monter dans la gloire du ciel, ou au moins être en disposition de le faire. Alors il faut lire l'évangile, il faut lire la parabole d'aujourd'hui, où Jésus, beaucoup plus calme que son apôtre, parce que, voyez-vous, l'un est la vérité même, qui n'a pas besoin de se justifier, l'un est habité par le Verbe éternel, en permanente communion avec son Père et le Saint-Esprit, tandis que l'autre, eh bien, tout saint qu'il est un petit bout d'homme qui est dans la contradiction permanente avec ce qu'il est. Il est marqué du péché, à la différence de Jésus, voyez-vous, et il doit rendre compte en permanence devant ses juges, parce qu'on est passé à une époque de persécution, à la différence de Jésus lorsqu'il édicte cette parabole. Il est donc dans une posture de dialectique. Voilà pourquoi le ton du Seigneur et le ton de saint Paul sont si différents. Eh bien, dans cet tranquille enseignement, ce puissant enseignement du Seigneur Jésus, que lit-on en réponse à saint Paul ? La même chose que la réponse qui lui est faite lorsqu'il parle de l'aiguillon de la chair et qu'il s'en plaint à son Dieu. « Ma grâce te suffit. » Jésus dit « Prends patience. » Prends patience, mon ami. Certes, en toi, il y a un principe de vie, l'esprit, il y a un principe de mort, la chair, n'aie crainte. Laisse croître les deux, c'est-à-dire ne cultive pas ton péché, on voit mal Jésus nous dire cela, mais laisse croître ton être, laisse toute la puissance de ton être, tout ce que je t'ai donné se développer, et force-toi de te ranger du côté de l'esprit, mais surtout, n'en viens pas à des excès. Parce qu'à être trop excessif en faveur de la spiritualisation, un beau jour, tu pourrais tomber dans le travers inverse. Qui fait l'ange, fait la bête. C'est ce que semble dire Jésus dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, par la bouche du bon maître de famille, lorsque ses serviteurs veulent arracher d'un chef le l'ivraie qui s'est mêlé au bon grain. À saint Paul, encore une fois, Jésus semble opposer la nécessaire patience du temps de Dieu. Nous sommes parfois trop empressés de vouloir nous sanctifier. Tout cela est bel et bon, mais qui nous pousse à cela? C'est bien le démon qui voudrait qu'en arrachant l'ivraie, en même temps, nous arrachions ton grain, tout simplement. Et que, revenu de nos bons propos, nous nous vautrions, considérant qu'il est impossible, en réalité, de progresser spirituellement. Vous voyez donc j'espère que ce n'était pas une homélie trop théorique, mais je crois parfois qu'il est bon de pouvoir confronter les textes pour voir tout le jus qu'on peut en tirer et pour voir l'enrichissement mutuel de ces textes-là. C'est pourquoi, à ceux qui, peut-être d'entre vous, se contenteraient de lire de temps à autre l'Évangile, notamment l'Évangile du dimanche, je leur dis qu'ils ont raison de donner la primauté à l'Évangile, puisque là est relatée la vie même de notre Seigneur Jésus-Christ, Mais je leur dis également qu'ils ont tout intérêt, de temps à autre, à aller fouiller du côté de saint Paul, qui, pour très intello qu'il semble, et très ésotérique qu'il paraisse au premier abord, si on le lit communément avec l'Évangile, nous livre un fruit dont nous pourrons nourrir notre vie spirituelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.